BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir sincèrement que de vous retrouver, de passer cette petite heure en votre compagnie, votre rendez-vous tech du week-end, c'est De quoi je me mêle. Vous le savez, samedi, dimanche sur BFM Business, radio-télé, et puis en exclusivité en podcast audio et sur YouTube dès le vendredi midi. Voilà, vous savez tout et merci de nous suivre. Avec un monstrueux club de la presse IT, on peut le dire aujourd'hui, puisqu'on va pendant une heure débriefer toute l'actu de cette semaine avec nos experts que je vous présente tout de suite. Et je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien évidemment, si vous voulez réagir à tout ça sur Twitter, entre autres. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous tous. Vous et vous tous. Et pour parler actu, cette semaine, Anthony Morel est là. Comme d'habitude, vous le savez, fidèle au poste, magnifique t-shirt, non pas Pac-Man, mais Pac-Wars.
Exactement.
Je m'adresse à tous ceux qui sont avec nous en audio, je vous le décris, il est superbe.
J'aime bien.
Un mix de Star Wars et de Pac-Man. J'achète.
Mais ouais, n'hésitez pas, s'il y a des auditeurs qui font des t-shirts personnalisés, parce que je sais qu'il y en a qui m'en envoient, donc n'hésitez pas, je les porte.
Et celui-là, c'est un auditeur qui te l'a appris ?
Non, celui-ci, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert. Mais
C'est vrai ?
Ouais, absolument.
Mais c'est incroyable, t'as combien de t-shirts ? Excuse-moi, Nico, hein, je trouve les t-shirts d'Anthony fascinants, je pourrais en parler pendant des heures.
Mais je suis bien d'accord, on devrait faire une émission spéciale
spéciale t-shirt. Ouais. Alors, je suis obligé d'en jeter régulièrement.
Mais c'est super.
Tu sais que je suis obligé d'en jeter régulièrement parce que ma copine m'engueule. Bah, c'est ça, parce que ça s'accumule. Je suis pas très en plus sinon, tu vois, mais vraiment la collection de t-shirts, c'est vrai qu'elle prend un peu de place.
Ouais, bien sûr, mais ça fait partie de ton image maintenant.
Absolument.
C'est ça. Nicolas Lelouch est
salut
là.
François,
salut Nico.
Salut Anthony.
Ravi de te retrouver, évidemment.
Également.
La rédaction de Numérama qui est dignement représentée par Nico. On est très heureux de te retrouver comme à chaque fois pour faire un point sur toute l'actu. Alors, on va parler d'IA, on va parler aussi du MetaQuest 3. Alors, petite précision, on enregistre cette émission exceptionnellement mercredi matin. Donc, il y a pas mal d'annonces qui vont tomber entre-temps. Donc, tout ce qu'on dit est un peu au conditionnel et ne nous en voulez pas si on n'est pas, on va dire, vraiment au top de l'actu ou s'il nous manque des précisions parce que voilà, on enregistre cette émission exceptionnellement un peu en avance. Mais pour débuter, donc l'IA avec, et ça, c'est pas du conditionnel, c'est de la réalité, OpenAI qui a mis à jour ChatGPT, Anthony, avec un truc de fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la puissance de ChatGPT, mais avec le vocal et l'image aussi. Franchement, c'était les deux briques. ChatGPT maintenant entend, regarde.
Ouais. On lui a
bientôt
donné
il va nous sentir.
Oui, c'est ça. T'as raison. On arrive aux cinq sens.
Non, mais c'est ça,
et attends qu'il arrive à te toucher. Alors là, on sera encore à une autre étape, si tu veux. Mais là, on lui a donné des yeux et des oreilles, quoi, concrètement, à ChatGPT. C'est la plus grosse mise à jour, je pense, depuis le début, depuis l'introduction de ChatGPT.
Ah oui, depuis novembre, je pense que c'est vraiment le truc le plus
clairement,
important.
Clairement. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que là, pour moi, cette mise à jour, elle déverrouille le potentiel de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était déjà incroyable, hein, très très clairement, et ça a permis de démocratiser auprès du monde entier ce que pouvait faire l'intelligence artificielle. On s'est tous amusés à rédiger des prompts, à lui demander de nous écrire un épisode de notre série préférée ou à écrire une dissertation à notre place, etc., ou des articles pour certains, pourquoi pas. Mais là, on arrive avec des cas d'usage absolument dingues où on va pouvoir intégrer des briques d'intelligence artificielle dans tout ce qu'on fait à partir de notre smartphone. C'est-à-dire que je vais pouvoir lui parler tout simplement comme je serais en train de parler à un être humain. On a parlé la semaine dernière d'Alexa et d'Amazon qui faisaient un petit peu la même chose.
Ouais.
Donc on va pouvoir lui poser des questions en langage naturel. On va pouvoir
c'est
lui montrer des choses.
C'est déjà ça avec l'appli ChatGPT sur iPhone parce qu'en fait il suffit que tu lances Siri.
Ouais, c'est vrai.
Et tu. En fait, voilà.
C'était déjà possible
bricolage
de lui parler. Ils avaient eux-mêmes mis un module.
Mais ça marche. Mais sauf que là, ça sera en natif.
Ce sera en natif et surtout tu as la combinaison avec les yeux. C'est-à-dire que concrètement, tu pourrais. Alors c'est une des démos qui faisait, tu lui montres les nuages avec ton smartphone et tu lui dis est-ce qu'il va pleuvoir et en gros il va te faire l'analyse. Ah bah oui, ça c'est des cumulonimbus, alors oui, wow. Il va te géolocaliser, il va pleuvoir ici dans un quart d'heure. Tu lui
j'adore l'exemple poétique d'Anthony parce que moi hier dans Tech & Co j'en ai donné un autre, c'était le frigo.
Le frigo, ouais.
Mais oui. Je sais pas si
moi, j'aurais donné l'exemple du bricolage. On a un truc cassé, on demande est-ce que ça, comment je peux réparer ça.
C'est
il va dire il faut tel outil, il faut tel outil.
C'est ça.
Et tu rentres le soir, par exemple, tu sais pas quoi faire à bouffer. Tu ouvres ton frigo, tu prends une photo de ton frigo ouvert. Il va scanner tout ce qu'il y a dedans. Il va dire, bah, tu peux te faire un chicken machin avec de ta, tac, tac. Ouvre-moi le placard. Tu lui ouvres le placard. Il va regarder ce qu'il y a dans le placard et te dire les éléments de recette, en fait.
Pour le bricolage, c'est, moi, c'est pareil, ça m'a parlé parce que je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Et tu vois, genre, il te montrait le vélo aussi où tu as un problème avec ton vélo. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu montres le vélo à ton smartphone. ChatGPT va te dire, bah là, clairement, tu as déraillé. Et voilà ce qu'il faut faire. Et si tu es trop nul, il va te montrer un petit tuto vidéo. Enfin, c'est fou, en fait. Là, c'est vraiment, là, tu as un assistant personnel pour absolument tout. Tu as une sorte de concierge dans ta poche qui peut t'aider pour tout.
Et tu oublies aussi maintenant qu'il peut répondre avec la voix. Et je trouve que ça aussi, ça ajoute une part d'identité au service qui, jusqu'à maintenant, d'éviter du texte,
une vitesse
assez folle. Là, maintenant, ça va parler à un rythme humain. Ça peut interagir, créer des conversations. Et je trouve que, en fait, on l'a vu avec Alexa la semaine dernière. On sait qu'il y a des rumeurs sur Siri pour l'année prochaine. Google Bard, Google Assistant qui commence à se ressembler avec ce type de fonction. On est en train de voir une transformation de ces modèles de langage qui étaient des logiciels un petit peu expérimentaux à base de prompts textuels vers justement les assistants vocaux du futur. Ce qui est logique finalement, qui a envie de garder Google Assistant ou Siri à partir du moment où on peut avoir ChatGPT qui fait la même chose avec un accès à des connaissances quasi illimitées. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ChatGPT concrétiser ça lui-même. On pouvait imaginer que ChatGPT intégrerait sa technologie aux autres, mais non, lui aussi entreprend de devenir l'assistant vocal de nos smartphones, de nos ordinateurs, et je trouve ça très cool.
Ouais, et alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne une immense claque à Google qui travaille sur Google Lens depuis des années. Ouais. Enfin, là, on a l'impression que toutes les briques que Google a mis en place depuis toutes ces années, mais qui sont un peu déstructurées, et ben là, ChatGPT arrive et met tout dans une ergonomie qui fait que ben ça y est, quoi.
Après, dit, ils peuvent faire la même chose avec Google Lens.
Ils le font déjà en partie. Google Bard intègre déjà Google Lens. Ouais. La réalité, par contre, c'est que c'est pas bon. Et quand on met une photo à Google Bard, moi il m'a fait ça récemment, je lui demandais décris-moi cette photo en mettant en photo quelqu'un devant un restaurant avec une glace dans la main. Et il commence super bien, alors, le restaurant s'appelle machin, il y a une glace, et après il raconte la personne est habillée de telle manière, elle revient d'un magasin où elle est allée acheter des chaussures, tout ça c'est faux, c'est une invention totale.
Ah oui, d'accord, Google Bard, il fabule en fait.
Il est capable de reconnaître parfaitement grâce à la technologie de Lens, mais il invente une histoire à partir de l'image qu'il voit. Et ça c'est parce que Google a absolument mal mis ces briques logicielles.
C'est Google mytho.
C'est ça.
Google Bard est un immense mytho. Sur à peu près tout, il est capable d'inventer des choses. Et,
c'est incroyable.
Google avait de l'avance sur la reconnaissance d'image. Moi, maintenant, la seule question, parce que ChatGPT a annoncé que ça serait dispo dans les 2 semaines pour les utilisateurs payants de ChatGPT. Ma question, c'est est-ce que ça sera bon, la reconnaissance de photos ? Parce qu'on savait que GPT-4 était capable de gérer, de reconnaître des images, mais ce n'était pas déployé pour le grand public. C'était uniquement dans les API pour les développeurs qui voulaient en faire quelque chose. Est-ce que si je prends en photo justement la fameuse glace de la dernière fois, est-ce qu'il va être factuel et analyser les parfums possibles de la glace, ou est-ce qu'il va aller imaginer ce que j'ai fait avant d'aller acheter la glace? Et c'est là tout l'enjeu. Il faut voir ce que va donner ChatGPT maintenant qu'il peut reconnaître les images. Mais dans tous les cas, rien que le fait de pouvoir lui parler, je trouve que c'est une belle avancée.
Technologiquement, c'est complètement dingue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la bataille tellurique là, entre ces géants d'Internet qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a vu cette semaine aussi que Amazon avait investi, je crois que c'est 4 milliards de dollars dans Anthropic, qui est le concurrent de ChatGPT.
Une start-up dédiée à l'IA. Ouais.
Voilà, 4 milliards de dollars, c'est quand même massif.
Enfin, c'est jusqu'à 4.
Oui, jusqu'à 4.
Non, parce qu'en fait, ils commencent par une tranche d'un milliard, et puis après, ils verront ce qui se passe.
Enfin, en tout cas, on voit qu'il y a une bataille de milliards qui est en train de se jouer. OpenAI, il y a une nouvelle valorisation qui est sortie. Je ne sais pas si vous avez vu ça, parce qu'ils sont en train
entre 80 et 90 milliards.
80 à 90 milliards de dollars.
C'est les grands gagnants de l'année.
Ah ouais, alors là.
Tu te rends compte, 80 à 90 milliards. Enfin, faut se rendre. C'est en gros, ça en fait la plus grosse start-up du monde, quoi. Enfin, si tu comptes SpaceX comme une start-up, parce que ça fait un moment que c'est une licorne.
C'est Microsoft qui se frotte les mains, là.
C'est dingue. Ah bah ouais, eux, ils ont investi 10 milliards.
Mais je crois qu'ils font x3, en fait.
Ils font x3, exactement.
C'est fou.
Et ça va continuer, parce que cette technologie va être partout. On est passé de quelque chose dont on ne savait pas encore trop quoi faire, mais qui était impressionnant, à une solution qui est sur le point d'être intégrée à tous nos systèmes d'exploitation, à toutes nos applications. Je ne parle pas forcément de ChatGPT, je parle des modèles de langage et de ce nouveau type d'intelligence artificielle. Ça va être partout. Et OpenAI est hyper bien positionné aujourd'hui pour être l'entreprise au cœur de toute notre vie numérique.
Après, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, toutes ces on va dire, fonctions sont payantes malgré tout. Hein. Ça ne sera pas sur la version gratuite de ChatGPT. Il faut être à ChatGPT 4. Mm-hmm. Et à partir du moment où tu payes ton abonnement de $20 par mois, tu as accès à tous ces services.
Oui, il faut bien monétiser tout ça, hein, c'est normal. En plus, il faut...
Mais ça va être intéressant de voir si ça pousse les gens à payer pour bénéficier de ces services.
Absolument. Non, c'est
Est-ce que nous, au quotidien, on aurait besoin de ça? Est-ce que ça vaut le coup de dépenser $20 pour avoir tous ces services?
C'est vraiment à rebours de tous les modèles qui ont fait Internet et les moteurs de recherche notamment, qui étaient des modèles gratuits, qui misaient sur la masse d'utilisateurs couplés à des annonces et des liens sponsorisés. Là, le pari que fait OpenAI, c'est effectivement d'avoir du premium, une version payante, et de, qui est sur les milliards d'utilisateurs potentiels, un petit pourcentage qui accepte de payer un abonnement de plusieurs dizaines de dollars par mois. On va voir comment Google va suivre aussi de ce côté-là, parce que eux, pour le coup, ils ne sont pas du tout sur ce modèle pour l'instant. Hein. Bard, c'est gratuit. Donc, on va voir si ça reste.
Et personne ne l'est. Dans l'hypothèse où l'année prochaine, Siri intègre un modèle de langage ou Alexa intègre un modèle de langage, on peut difficilement imaginer ChatGPT, bien que supérieur aujourd'hui, continuer de dire que leur assistant vocal à eux est à $20. Donc, ce modèle-là me semble plus un modèle de financement qu'un modèle final. À quoi ça ressemblera leur monétisation à la fin, j'en sais rien, je ne sais pas quelle place ils vont prendre dans la société.
Ah, ils peuvent te mettre des liens sponsorisés à côté des prompts, quand tu fais un prompt, tu vois, de la même manière que tu as des liens sponsorisés.
En fait, la question, c'est est-ce qu'ils veulent vraiment être le produit grand public? Et moi, je pensais au début qu'ils ne le seraient pas, d'ailleurs, ça s'appelle ChatGPT, ce n'est pas vraiment un nom très grand public. Mais plus on les voit faire évoluer l'application, avancer, plus on a l'impression que OpenAI entreprend d'être un équivalent de Google pour les gens. Ouais. Ce qui n'était pas le cas au début. Je pense que le projet initial était de développer les modèles de langage, de les commercialiser et de se faire de l'argent comme ça. Mais là, ils voient qu'ils ont désormais l'image de marque suffisante pour devenir un géant de la tech. Donc, c'est compliqué pour eux de se positionner dans cet écosystème-là.
Et pendant ce temps-là, Microsoft déploie, on va dire, cette intelligence artificielle partout. Là aussi, on est pile poil dans l'actu, puisque depuis quelques heures maintenant, on peut télécharger une mise à jour de Windows 11 qui intègre, et c'est ça qui est intéressant, vraiment au cœur du système d'exploitation, l'intelligence artificielle. Ouais. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Il y en aura un deuxième en novembre.
Absolument. Bah, c'est là encore, hein, leur investissement dans OpenAI paye, mais alors de toutes les façons possibles.
C'est incroyable.
Ils payent parce que l'entreprise a vu sa valorisation être multipliée par 3 en l'espace de quelques mois, mais ça paye aussi
la
parce que...
La part à câble de Microsoft.
Ah, mais là, ils ont eu la vista.
Ils ont été bons là-dessus.
Là, Satya Nadella, tu vois...
Ils sont en passe de signer leur deal avec Activision, en plus.
Ouais,
aussi, franchement, 2023...
Aussi. Grosse année.
Ça sera une grosse année pour Microsoft.
Mais là, c'est un truc de fou parce qu'effectivement, c'est du ChatGPT, enfin c'est du ChatGPT qui est intégré. Donc cet outil qui s'appelle Copilot chez Microsoft, qui est en fait un petit bouton à tout faire. C'est un peu, je vous souvenez de Clippy, le petit trombone. Pour moi, c'est Clippy mais nouvelle version, tu vois.
J'adorais Clippy.
C'est génial.
J'ouvrais quand j'étais plus petit, j'ouvrais Office juste pour jouer avec Clippy. J'avais rien à écrire, mais je cliquais dessus.
Ce trombone avec les yeux,
quand il disparaissait, j'étais dégoûté. Je savais pas comment le faire revenir.
Ils ont fini par tuer Clippy, mais Clippy revient par la fenêtre. Alors, c'est pas du tout la même
vrai,
chose.
Alors, je l'aurais appelé Clippy d'ailleurs.
Mais exactement,
mais
moi aussi.
Évidemment.
Exactement, ils auraient dû faire ça. Mais ça va être un peu ça.
Tu as tout à fait raison.
Dans le sens où ce copilote, alors dans Windows, on parlera après des logiciels parce qu'il va avoir une autre utilité, mais dans Windows, tu pourras en fait t'en servir comme d'un assistant pour t'aider à faire plein de choses. Si tu veux, je sais pas, baisser la luminosité pour te mettre en mode focus pour bosser, bah, plutôt que d'aller chercher, farfouiller dans les paramètres comme c'est le cas aujourd'hui, tu auras juste à lui écrire un prompt ou lui demander même à haute voix, hein, dit bah baisse un peu la luminosité et en fait il comprendra ce que tu veux faire. Et en fait c'est des petites choses comme ça, on est vraiment dans la logique, dans tout ce qu'on a raconté depuis le début, de simplifier notre rapport à la machine, c'est faire en sorte
l'ergonomie, révolutionner l'ergonomie,
l'expérience utilisateur, il faut que ce soit ultra simple, il faut plus que tu aies besoin d'aller chercher dans des menus, cliquer sur des trucs, taper du texte, il faut que
tu penses à un truc, tu veux quelque chose,
exactement,
tu le dis. Et la machine s'exécute.
Et ça se passe.
Ça me fait un peu penser, à l'amélioration de l'ergonomie d'Apple Watch avec le double
tap.
C'est autre chose, hein, mais mine de rien, c'est vraiment des trucs qui apportent une vraie valeur ajoutée en termes d'ergonomie, et c'est plutôt cool. Bon, cette mise à jour Windows Copilot, alors moi je suis sur Windows 11, pour tout vous dire, j'essaie de refresh.
Ouais, mais je crois qu'elle se fait progressivement.
Voilà, pour l'instant, j'y ai pas accès, il me tarde d'y avoir accès pour voir ce que ça donne.
C'est intéressant.
Ouais, c'est
plus,
cool.
Pour le coup, ils bossent avec OpenAI, donc on sait que ce n'est pas du Google Bard qui répond à côté.
Non, tu auras la puissance de ChatGPT dans Microsoft.
Et je trouve, c'est que, une petite parenthèse, hein, mais c'est une belle revanche quand on voit Cortana qui a complètement échoué sur la partie assistant vocal.
Mais Cortana était stupide.
Cortana était complètement stupide. Et là, Microsoft, finalement, à travers ce partenariat, ils sont en train de rattraper complètement le retard qu'ils ont pris sur le côté assistant vocaux. Et ils vont mettre une belle distance à tout le monde.
Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai qu'ils essaient de pousser Bing, leur moteur de recherche, et leur navigateur Edge. Là, c'est à mon avis un peu plus compliqué.
Ouais.
Parce que, mine de rien, voilà, on a des habitudes.
Les habitudes sont les habitudes.
Les habitudes avec Chrome qui sont compliquées à remettre en remettre en question en quelque sorte.
C'est clair.
Ouais, bien sûr.
Anthony, Nicolas, dans l'actu aussi, on a terminé. Ah non,
ouais, on juste une deuxième...
Deuxième partie, le deuxième étage de la fusée
le deuxième
Microsoft,
étage, exactement.
Parce que celui-ci est vraiment intéressant.
Bah, c'est l'intégration de Copilot en fait dans tous les logiciels de bureautique de Microsoft, hein, dans la suite Office 365.
Ça sera dans un second temps en novembre, je crois.
Absolument. Donc tu auras du GPT dans Word, dans Excel, dans Outlook, dans PowerPoint. Tu pourras t'en servir pour lui demander, fais-moi une proposition, je dois faire une présentation pour mon entreprise, il va te faire 10 slides alors que tu lui auras donné 2 ou 3 points et puis tu pourras choisir ce que tu veux pas, te proposer des réponses à des chaînes de mail, enfin voilà, on peut imaginer Excel de te faire de l'analyse de données de différents tableaux Excel, enfin plein de choses comme ça. Alors ce qui est intéressant aussi, là on parlait de modèle économique, c'est que ce sera payant et que ce sera payant assez cher, c'est de l'ordre de $30 par mois, c'est-à-dire plus cher que l'abonnement Office, 365 lui-même en fait, puisque tu as des abonnements Office à moins de 10€, alors ça dépend de la forme que tu choisis.
Il y a toujours des packs pour avoir un an à 40,
toujours des
50,
promos,
toujours des promos.
Donc c'est dire quand même la valeur qu'ils perçoivent, enfin qu'ils pensent ajouter avec l'intelligence artificielle, puisque ça permet de multiplier par 2 ou par 3 le prix auquel ils vont commercialiser leur suite logicielle. C'est quand même pas rien, tu vois. Il n'y a rien d'autre qui aurait pu leur permettre de doubler leur prix.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont en vendre à 30€ par mois? Parce qu'effectivement, 30€ par porte de travail, alors même s'ils arrivent un peu à négocier les prix, c'est énorme, en fait, pour les entreprises.
T'as vu les gains de productivité. Enfin, je pense que les entreprises vont faire leur calcul, mais si t'as un gain de productivité, si le truc te permet de faire des résumés automatiques de réunions quand tu sors d'une visio, d'écrire des mails à ta place et de faire des présentations PowerPoint en 2 secondes là où il te fallait 3 heures, bah, je pense qu'il y a des entreprises qui vont faire le calcul et qui vont se dire ouais, ça peut valoir le coup en fait.
Et c'est qu'un début, j'imagine qu'il y a aussi une limite volontaire pour limiter le nombre d'utilisateurs et que petit à petit les prix vont baisser,
il y
aura des services gratuits, des services payants, mais c'est vrai que c'est une révolution pour les logiciels de bureautique. J'ai discuté, moi, non pas avec Microsoft, mais avec Adobe, qui me racontait que cette montée de l'intelligence artificielle générative, elle est en train, pour la première fois, de faire de Photoshop un logiciel conçu pour tout le monde. Photoshop, ça a toujours été un logiciel qu'on ne pouvait pas maîtriser sans regarder des tutos sur Internet, acheter des livres. Je m'en sors pas trop mal dans Photoshop, mais je dois maîtriser 5 ou 6% des fonctions. Et bien là, ce que dit Adobe...
Comme Word et Excel, d'ailleurs.
Là, on arrive dans une nouvelle ère où désormais, un utilisateur débutant pourra utiliser Photoshop pour complètement fabriquer une image de A à Z.
Ouais. Et alors ça qu'avant, il fallait une expertise, il fallait des mois de formation.
Et pour eux, ça change tout parce que ça redéfinit le modèle économique et ça leur permettra potentiellement de toucher des clients qui étaient absolument inaccessibles avant.
Clair.
Et je pense que Microsoft voit la même chose. La question que je me pose derrière, c'est est-ce que les futures générations sauront faire des choses avec un ordinateur d'eux-mêmes ou est-ce que tout sera... de la même manière qu'à une époque, il fallait absolument bidouiller. Il y a encore plus longtemps, si on ne maîtrisait pas l'électronique, on ne pouvait pas utiliser un ordinateur parce qu'il fallait quand même savoir le démonter, savoir faire des choses. Petit à petit, on va de plus en plus dans un environnement où il y a les gens qui fabriquent et les gens qui utilisent et absolument plus aucun point.
C'est intéressant ce que tu dis, mais petit aparté, c'est vrai que j'ai vu une série télé il n'y a pas longtemps. Alors, je ne me souviens plus du nom de la série, mais ça se passait dans les années 80. Et c'était un journaliste, en fait, qui allait tous les matins à son bureau et... Pour se documenter, il n'y avait pas Internet à l'époque. Il demandait à la documentaliste d'aller dans une immense bibliothèque qui était au sous-sol de la rédac pour aller récupérer des informations, tu vois. Et de la même manière, c'est l'analogie. Et en fait, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. À l'époque, le métier de journaliste, c'était un truc de dingue. Les enquêtes, c'était des vraies enquêtes, quoi. Les gars, ils partaient, il n'y avait pas Internet, tu vois. Donc,
t'avais
aucune information.
Bien sûr.
Et là, maintenant, Internet a tout bouleversé pour notre métier. Et de la même manière, tu as raison,
métier,
les nouvelles générations vont appréhender le travail d'une manière totalement différente.
C'est clair. Non, mais j'en suis convaincu.
C'est aussi pour ça que quand on dit les digital natives, ils baignent dans le numérique et tout ça, en fait, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'ils savent se servir, je caricature hein, volontairement, mais ils savent se servir d'Instagram ou TikTok, mais ça ne veut pas dire que tu sais comment fonctionne.
Non.
C'est ça. Tu n'as aucune connaissance intrinsèque de la façon.
Cette partie du fonctionnement
exactement.
Des couches logicielles, d'installation.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. J'ai grandi à une époque où ça commençait à être les ordinateurs grand public, donc c'était déjà assez facile d'accès, mais je voyais mes grands cousins à leur époque qui, même pour allumer l'ordinateur, fallait que tu tapes des lignes de code et tout ça, ça paraissait hyper compliqué, ouais. Tu vois, et en même temps, c'était super excitant. Et aujourd'hui, on est à l'inverse de ça, probablement pour le bien du plus grand nombre, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'accès, mais c'est vrai que ça crée une distance entre toi et la machine, parce qu'en fait, le truc tombe en panne et ou il y a un truc qui se met à bugger, tu sais absolument rien faire, quoi. Je sais pas du tout comment.
Mais c'est intéressant parce que tu parlais des digital natives qui manipulent TikTok, Snapchat, etc., mais qui, pour certains, il y a eu une étude qui était fascinante mais inquiétante, tous ces jeunes qui se servent de leur smartphone pour se divertir, tu les mets devant un PC avec plein d'outils de productivité, ils sont largués.
Oui,
quoi.
Faire, hein.
Parce
non,
que c'est, voilà, c'est autre chose.
Logique,
en fait, ça n'a rien à voir. C'est un autre,
exactement.
Une autre utilité et tout ça est passionnant.
Ouais, c'est des vraies transformations.
Bon. Est-ce que vous êtes prêt à donner $30 par mois donc pour avoir l'intelligence dans Office?
Écoute,
on verra. On verra ce que ça donne. Tiens, puisqu'on est dans l'IA, on peut y rester avec là encore quelque chose de concret qui va révolutionner peut-être notre manière d'écouter et d'apprécier les podcasts, Anthony, puisque Spotify a annoncé un truc de dingue. On va pouvoir écouter encore plus de podcasts et la barrière de la langue va disparaître.
Va être abolie complètement. En gros, on pourra écouter De quoi je me mêle
en
toutes les langues, en allemand si t'as envie, ou en polonais, ou en coréen, voilà, pour s'il y a des gens à Séoul qui veulent nous écouter, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en gros, alors pour l'instant, on pourra pas le faire avec De quoi je me mêle en réalité, parce qu'ils l'ont annoncé sur une sélection de podcasts, des gros podcasts américains, mais en gros, en utilisant là encore l'intelligence artificielle, eh bien, on va pouvoir doubler, cloner la voix des podcasteurs, la doubler et la traduire quasiment en temps réel, et donc avoir un podcast en appuyant sur un bouton dans n'importe quelle langue potentiellement. On parlait la semaine dernière de Agen, cette application devenue virale qui permet de doubler n'importe quelle vidéo, et c'est vrai que c'est incroyable. Tu m'en as fait encore une cette semaine qui était hyper sympa, de Estelle Denis, donc qui parle en chinois. Elle a halluciné, elle a adoré.
Mais c'est incroyable la qualité du truc.
C'est fou.
C'est
et donc
incroyable.
Là, en gros,
t'as testé Agen
et donc là, on a un petit peu le même genre de technologie, mais qui va être intégrée dans Spotify. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et effectivement, ça va ouvrir là encore un champ des possibles absolument incroyable, puisque tu vas pouvoir avoir accès potentiellement aux podcasts du monde entier dans toutes les langues. Moi, je connais pas. J'imagine qu'il y a plein de podcasts en chinois qui sont absolument passionnants, mais auxquels j'ai pas accès. Et ben demain, on y aura accès dans la langue.
Avec le timbre de voix de l'auteur. Et c'est ça qui est fou.
Moi, c'est la révolution technologique. Pour moi, elle est dans le fait de conserver la voix. C'est que l'art du doublage a toujours consisté. Il y a toujours eu le débat entre les puristes de la VO et de la VF sur le fait que
qui est légitime,
je veux entendre la voix de l'auteur. J'ai pas envie. La voix de l'acteur. J'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui parle par-dessus. C'est pas les mêmes expressions. C'est pas le même ton. Là, en fait, tout ça disparaît. À partir du moment où on est capable d'imiter une voix, de la traduire, de récupérer les mêmes intonations, les mêmes tons, les mêmes expressions. On est sur une révolution, non pas des podcasts, mais du doublage en général. Et certes, on sort d'une grève des scénaristes aux États-Unis où ça a été quand même un sacré chaos et l'IA leur fait peur. Donc j'imagine que ce sujet ne va pas être sur la table immédiatement.
Bon, ça a été réglé. Visiblement, ils reprennent le travail là dans quelques jours.
Ils reprennent, mais je ne pense pas qu'on va dire la semaine prochaine « Regardez, Netflix, on a inventé une nouvelle solution. Dans tous nos films en anglais, ils passent en français direct. » Je pense que les studios de cinéma vont être un petit peu lents là-dessus parce qu'ils ont intérêt à ne pas brusquer tout le monde. Mais à terme, je vois pas comment on peut pas aller vers cette révolution justement de la langue avec des contenus qui ne seront pas sous-titrés mais qui pourront être traduits automatiquement par une intelligence artificielle en conservant la voix. Et c'est absolument dingue.
La synchronisation labiale,
avec la synchronisation de la bouche.
Imaginez regarder un film avec Leonardo DiCaprio, vous le regardez, il parle en français, c'est sa voix et c'est la synchronisation de ses lèvres.
T'imagines les mecs qui sont en école de doublage en ce moment là.
Non, mais c'est clair que ça
c'est chaud. Hein.
Et pourtant, j'adore le métier du doublage, je suis passionné, je regarde des émissions, l'émission de Donald Reignoux qui parle justement des coulisses du doublage français, je trouve qu'elle est géniale et c'est hyper intéressant, mais d'un autre côté je ne vois pas comment l'évolution technologique peut pas passer par là.
Oui, parce que c'est un game changer, comme on dit,
concrètement, ça change tout.
C'est mieux que ce qui se fait aujourd'hui en fait.
Exactement.
Après les podcasts, ça sera YouTube. ça, YouTube déjà commence.
Annoncé d'ailleurs, je crois. Ils ont annoncé la trad en temps réel.
Depuis peu, ils proposent du multilangue. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on a la possibilité de voir une vidéo de Marcus Brownlee, de MrBeast, donc les gros YouTubeurs américains. S'ils ont mis une piste française, on peut avoir une piste française sur la même vidéo.
C'est de la traduction version
française. C'est de la traduction avec un c'est un doublage par un être humain.
Ouais, c'est ça. Voilà.
C'est quelqu'un qui l'a fait. Si demain ça on l'automatise avec la possibilité de mettre la même voix dessus automatiquement, bah c'est vraiment.
Mais c'est même pas si demain. C'est demain.
Ça va arriver demain.
C'est obligé. Alors, la technologie existe.
Il y a la question de l'opposition des métiers du doublage qui va forcément poser problème. On va avancer à reculons là-dessus.
C'est un tsunami.
Comme je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière. Non, ça c'est clair. C'est clair, enfin, tu pourrais y mettre tout. Enfin, je veux dire,
c'est pas le
quand les trains sont arrivés, les conducteurs de calèche, ils n'étaient pas contents, mais il y a un moment, tu peux rien faire. Voilà, on peut le déplorer, mais c'est comme ça.
Juste, il nous reste une minute pour, enfin, même un petit peu plus, on n'est pas aux pièces, mais puisqu'on parle de Spotify, donc où en est Spotify en termes d'innovation? Parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, Apple Music, Amazon, etc., sont tous passés au Dolby Atmos, à la qualité sonore, iRes, pour avoir le carrément sur Apple. Je regardais à la fois l'album de Michael Jackson, Thriller, est en qualité master, c'est-à-dire qu'en fait, on te balasse en streaming la qualité qui sort en fait du studio d'enregistrement, c'est incroyable. Bon, t'écoutes ça avec des AirPods, donc ça n'a pas de sens.
C'est pour ça que le lossless est quand même à tempérer.
On est d'accord. Mais malgré tout, c'est intéressant, c'est un plus, tu vois.
C'est clair.
Et Spotify est toujours à la traîne là-dessus.
Oui.
Alors, ils ont été hyper innovants. Ça a été le premier service de streaming avec Deezer à complètement disrupter ce marché-là. Ouais. Et c'est les derniers à innover là.
Visiblement, ils veulent s'y mettre quand même, apparemment.
Oui, ils vont s'y mettre. Ce qui est marrant, c'est que
ça fait deux ans qu'on nous dit ça. Ça fait deux ans qu'on nous dit qu'ils doivent s'y mettre.
Parce que ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'ils étaient prêts il y a deux ans, qu'ils avaient leur nouvelle offre, formule payante, plus chère, pour justement. Enfin, faut pas oublier que Spotify, la majorité de leurs revenus, c'est la musique. Hein. Apple, la majorité de ses revenus, c'est pas la musique.
Ouais,
donc Apple n'en a rien à faire qu'un truc. Se vendent à perte. L'idée, c'est de pouvoir justement étouffer la concurrence. Spotify, ça a dû leur faire du mal, cette histoire d'Apple en lossless et compagnie. Donc pour eux, je pense qu'ils vont arriver. Il y a des rumeurs d'une nouvelle offre à $20 par mois qui intégrerait le lossless et qui, à mon avis, ne va pas se contenter du lossless, qui va ajouter des fonctions.
Ouais, mais $20, Nico, c'est le double du prix d'aujourd'hui.
C'est une offre ultra premium à la manière d'un cobuzz, en fait. Ils ne vont pas justement adresser le marché de la même manière qu'Apple ou Amazon.
Ça marchera jamais.
Ils ont quand même, on dit qu'ils innovent pas. Moi, j'aimerais bien voir Apple Music, Apple Podcast, travailler sur l'IA avec une sorte. Il y a le DJ là, qui permet de parler, dire allez, on va écouter ça dans un instant, qui est complètement basé sur ChatGPT, que Spotify propose en exclusivité. Ils ont justement plein d'options de recommandation grâce à l'IA. Ils vont avoir maintenant cette traduction des podcasts. Je trouve que Spotify, quand même. Est une vraie boîte dans son approche de l'audio.
La musique
le
corps
business de la musique,
c'est ça,
ils sont fait larguer.
Tu t'abonnes à Spotify ou un service de musique pour avoir la musique
que tu veux
instantanément avec une bonne qualité. Bah,
mais eux mis sur le fait que demain, tu t'abonneras peut-être, tu t'abonneras peut-être à Spotify pour avoir justement ce radio host qui le matin te réveille. Hey, comment ça, t'as bien dormi, on va écouter ce que t'aimes bien aujourd'hui, on va mettre un peu de radio, allez, je te mets un bout du podcast, tout ça. Enfin, eux, ils espèrent justement devenir une boîte tech à travers l'audio. Pourquoi pas, finalement.
C'est un peu hasardeux.
Sachant que tout ça, c'est complètement hypothétique, hein, puisque ce n'est pas des annonces officielles de Spotify, c'est des...
Le $20
ouais,
le DJ, ça existe. Hein.
Non, le DJ, oui, bien sûr. Non, je parlais de la qualité audio, etc. Ça, c'est des internautes qui sont allés chercher dans le code source, etc. Donc, c'est vraiment pour l'instant encore... On sait qu'ils travaillent dessus, mais ça n'a pas été annoncé officiellement. Après, effectivement, moi, je suis assez d'accord sur le fait que je serais prêt à payer un petit peu plus cher si, en plus... de la qualité sonore améliorée, il y avait effectivement les fonctionnalités podcast dans toutes les langues. Il faut qu'on me donne de la valeur.
C'est cher,
il faut qu'on
me donne $20.
$20, ça me paraît un peu.
Si $20, c'est un compte famille, parce que j'imagine que ça sera un compte famille. En tout cas, j'espère.
C'est pas sûr.
Si c'est un compte famille, c'est pas délirant parce qu'on est sur du 17-18 euros chez les concurrents.
Non, mais d'accord.
Si c'est un compte solo, oui, c'est le double.
C'est le double.
Moi, je suis pas d'accord
avec ça. Surtout quand tu vois la concurrence qui propose à 10,99 quasi pareil, tu vois.
Absolument.
Bref, c'est intéressant. Voilà, il ne faut pas oublier que Spotify est sans doute l'une des rares pépites européennes de la tech.
Ça, c'est vrai. Hein,
mine de rien.
Ouais.
Il n'y en a pas des masses et ça serait dommage qu'ils se laissent quand même doubler par Apple et consorts et Amazon. Ça, c'était la première partie de ce Club de la Presse IT. On revient dans un instant. Si vous êtes à la radio, à la télé, vous ne touchez à rien. Si, en revanche, vous êtes en podcast ou sur YouTube, eh bien voilà, vous allez avoir la deuxième partie que vous allez pouvoir cliquer. Et on va parler beaucoup de VR, mais aussi d'Apple qui dérape, a des petits dérapages en ce moment, comme ça. Là, c'est un moonwalk, mais raté.
Ça chauffe pour Apple, belle phrase.
Pour Apple, et puis les coques aussi, pas terribles. On en parle toujours avec Nicolas et Anthony dans la deuxième partie de De quoi je me mêle. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà de quoi je me mêle. Deuxième acte, toujours, vous le savez, on est là pour commenter l'actu BFM Business le week-end en podcast audio sur YouTube dès le vendredi midi avec Nicolas Lelouch qui est là de la rédaction de Numérama. Rebonjour Nicolas, et puis Anthony Morel, toujours fidèle au poste, vous le savez. Notre journaliste maison que vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, mais aussi entre midi et deux avec Estelle Denis sur RMC et RMC Story. Dans l'actu, après avoir parlé longuement d'IA, je vous invite maintenant à nous plonger dans l'AVR. Parce que l'AVR, on se disait il y a encore quelques mois, ben voilà, c'est cuit, c'est terminé, Meta est tout seul. Et puis Apple est arrivé avec son Vision Pro, ça relance un petit peu l'intérêt de tout ça. Et alors, précision, dans la temporalité de ce que vous écoutez, vous regardez, on enregistre ce De quoi je me mêle le mercredi matin. Ce soir, Nicolas, on est totalement transparent puisque vous écoutez cette émission vendredi. Hein. Donc ce soir, le mercredi, Meta doit annoncer pas mal de choses. On a déjà des informations, mais on n'aura peut-être pas tout à vous dire. Hein.
C'est ça. Il y a la conférence Meta Connect qui est d'ailleurs pour moi une des conférences, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, une des conférences les plus sous-cotées du monde de la tech. On parle toujours d'Apple, Google, alors que Facebook, c'est 3 milliards de personnes quasiment quotidiennement qui se connectent. Et pourtant, ça n'intéresse pas, alors que leurs annonces, elles concernent la moitié de l'humanité. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, ils ont leur grosse conférence ce soir. On ne sait pas tout ce qui va être annoncé. Il y a des rumeurs, notamment sur l'IA, tout ça. Donc, au moment où vous regarderez, écouterez cette émission,
voilà, vous saurez sans doute des choses.
Vous verrez sans doute qu'ils ont fait des annonces sur l'IA. Maintenant, sur le Quest 3, c'est un produit qu'ils ont déjà pré-annoncé en juin. Il y a eu plein d'annonces. Ils l'avaient annoncé 4 jours avant l'Apple Vision Pro, volontairement. Ils ont toutes les capacités techniques, le prix, les fonctions, les couleurs. Donc, on sait tout de ce produit.
J'adore, là.
Donc, c'est facile.
4 jours avant le Vision Pro.
Allez,
ouvrez-moi le tiroir, là.
On est là.
Moi, je pense que c'était bien joué parce que ça occupait le terrain et ça permettait de dire voilà, le Vision Pro coûte 3 500 alors que celui de Meta coûte 579 €, ce qui est moins cher. Donc, leur positionnement, il est intéressant. Et de toute façon, c'est ce dont on va parler là. Je pense que ce produit est hyper intéressant pour Meta parce que c'est à la fois, ils sont à la fois leaders sur le marché aujourd'hui, et pourtant ce casque, c'est déjà le casque de la dernière chance. Si le Meta Quest 3 n'est pas un immense succès à Noël notamment, partout, parce qu'aux États-Unis on sait que ça marche, mais ça marche moins en Europe par exemple, je pense que Meta va avoir énormément de mal à concurrencer Google, Samsung quand ils vont arriver l'année prochaine.
Et Apple,
ils ont déjà leur place assurée. Ils ont leur place sur l'haut de gamme. Ils auront le marché du haut de gamme de la réalité virtuelle mixte. C'est Apple.
Mais ça ne peut pas durer infiniment, ce produit à 4 000 $.
Non, il ne peut pas durer à 4 000 $.
Mais
pour l'instant, ils s'en foutent. Le truc est à 4 000 $. Ça restera à 4 000 $. Et ils auront le temps de le descendre. Maintenant, il va falloir une marque qui va faire du grand public. Et cette marque-là, elle a besoin d'une plateforme. Et la plateforme, ça sera soit ce que propose Meta avec le Meta Quest, soit Android XR, qui sera la version réalité mixte.
Dont on ne sait pas grand-chose encore aujourd'hui.
Non, c'est rien, à vrai dire.
Visiblement, il y aura un événement à la fin de l'année puisque Google s'associe à Samsung. Hein, Samsung s'occuperait du hardware de ce nouveau masque.
Tout à fait.
Et très secret. Hein. Ouais. Là, en revanche, on n'a pas beaucoup d'informations. Ça va être intéressant de suivre tout ça.
Clairement.
Qu'est-ce que tu en penses, Anthony ?
Ouais, ça va être intéressant. Effectivement, je pense que alors, de la dernière chance, peut-être que c'est allé un peu loin, mais en tout cas, c'est le casque qui doit, pour Meta, prouver que la VR peut être un produit mainstream, ce qu'ils n'ont toujours pas réussi à prouver pour l'instant. C'est les leaders du marché, c'est très clair. Ils ont vendu 20 millions de casques Quest en tout, dont une très grande majorité, je crois que c'est 18 millions de Quest 2. Donc, c'est un casque qui a un certain succès, mais on n'est pas sur un produit mainstream. Voilà, on est sur un produit qui vend quelques millions, mais qui n'est pas mainstream pour plusieurs raisons. Je pense que, pour moi, la raison principale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les contenus suffisants. Il n'y a pas la killer app, le truc qui fait que monsieur et madame tout le monde a envie aujourd'hui d'investir dans un casque de VR qui coûte 200 ou 500 euros, parce que le Quest a beaucoup baissé en termes de prix. Tu vois, si tu demandes à des gens de te citer ne serait-ce qu'une application ou un jeu en VR, tu as Beat Saber éventuellement, tu vois, mais c'est tout. Et bon, Beat Saber, tu y joues une heure, après, il y a un moment.
Fruit Ninja aussi, c'est très sympa.
Ouais, Fruit Ninja, ça marche bien aussi, effectivement.
Non, mais moi, il y a le jeu de ping-pong que j'adore.
Ah, aussi, j'adore aussi. Ouais, l'hiver, c'est génial. C'est génial. Incroyable. Mais tu vois, il n'y a pas. Enfin, tu t'amuses bien, mais c'est pas un truc qui va faire forcément que tu vas investir dans ce casque. C'était aussi la logique de Meta quand ils nous ont vendu le métavers, en nous disant bah, en fait, vous allez vous servir de ce casque pour tout, vous allez vous en servir pour travailler, vous allez interagir avec vos amis, vous allez aller à des concerts virtuels, et ce sera pas juste un truc un peu gadget pour jouer à Fruit Ninja. Sauf que ce pari-là, bah, pour l'instant, ça a pas trop pris, ça a pas trop pris parce que et c'est un peu la question de l'œuf et de la poule, c'est-à-dire parce que les casques étaient pas suffisamment performants. Donc là, peut-être qu'il va y avoir des améliorations, plus légers, plus puissant, ça aussi c'est un truc qui est très très important, parce que les graphismes n'étaient pas suffisamment intéressants non plus, donc il va falloir évoluer sur tous ces aspects-là pour que ce produit soit enfin quelque chose que monsieur et madame tout le monde puisse avoir, ne serait-ce que l'idée d'aller acheter.
Il faut que ça devienne sexy aujourd'hui.
Il faut que ça devienne sexy,
qu'il y ait des killer apps, et franchement, moi, juste un mot sur le ping-pong, parce que j'en ai déjà parlé, mais je me suis pris une claque avec ce truc-là. On est d'accord.
Ah ouais, je suis absolument d'accord.
Franchement, on se dit waouh, là on rentre dans une autre ère, on rentre dans un truc que moi j'avais jamais vu. Le fait de chausser son masque et de te retrouver à jouer au ping-pong dans une salle dont tu peux tu vois choisir le décor et tout, et jouer en réseau avec toi qui est à Nantes et moi je suis à Paris, on joue au ping-pong avec les subtilités du ping-pong, le fait de pouvoir se parler.
Et les retours haptiques sur les manettes aussi.
Le retour haptique sur les manettes et tout, tu peux même te chambrer parce que t'entends les. Enfin, le ping-pong, c'est tout quoi. C'est les relations humaines, c'est du sport. Enfin, il y a tout. Et tout est conservé là-dedans. Dis qu'on rentre dans une nouvelle ère.
Et t'as des ligues mondiales de ça qui ont été créées.
Mais bien sûr,
le sport en VR.
Enfin, ma parenthèse, mais vraiment, essayez-le un jour si vous avez l'opportunité. C'est vraiment incroyable. Moi, je suis resté.
Non, mais je suis d'accord, et ce qui est intéressant, c'est que là on parle que de réalité virtuelle, et c'est tout le virage qui est attendu avec Meta sur le Quest 3, c'est de prouver que la réalité virtuelle et le métavers ne sont pas la seule approche possible avec ces produits. Et par ça, on pense forcément à la réalité mixte. Ça sera le gros sujet avec ce Meta Quest 3.
C'est le mix entre l'AR et la VR.
C'est la possibilité, quand vous mettez le casque, je mets un Meta Quest 3 sur mon visage, je vous vois. Et si je reçois un message, le message va se projeter au milieu de ma vision, mais je peux continuer à vous regarder. Et l'approche, j'ai parlé pas mal avec Qualcomm, qui a lancé une nouvelle puce qui va équiper ce Meta Quest 3, qui s'appelle le Snapdragon XR2 Gen 2. Si on n'a pas compris que c'est la deuxième, franchement, je ne sais pas comment... Alors là-dessus, c'est assez...
Alors que c'est le Quest 3, c'est ça,
c'est
le paradoxe.
Quest 3, et la puce s'appelle XR2 Gen 2. Et ce qui est marrant, c'est qu'eux le présentent comme une toute nouvelle puce qui revoit complètement l'architecture sur la réalité mixte. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir changé de nom. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais leur approche désormais, ça va vous faire rire, c'est de dire qu'on ne parle plus de réalité virtuelle, mais d'ordinateur spatial.
Ça vous rappellera peut-être quelqu'un.
Mais l'idée, c'est que... pour eux, la killer app de ce Meta Quest 3, en tout cas pour Qualcomm, c'est pas de jouer au ping-pong, c'est de pouvoir travailler avec un ordinateur, un écran infini.
Même avec le Quest 3.
Avec le Quest 3. On est là-dessus. On est sur une latence qui a été divisée par 8, sur des capacités d'intelligence artificielle qui sont multipliées par je ne sais même plus combien, par la possibilité de passer de la VR à la réalité mixte sans aucun bug.
Améliorer la restitution de la réalité aussi.
Améliorer
parce
la restitution de la réalité.
Quest 2 en étant noir et blanc.
Les objets. Mais on est vraiment sur l'ère de la réalité mixte, elle commence maintenant avec le Meta Quest 3, et Meta doit prouver que son approche métavers n'est pas incompatible avec l'idée d'avoir un ordinateur qu'on se met devant les yeux.
Et elle prend le train d'Apple aussi, accessoirement.
Et absolument, et il faut le faire de toute façon, parce que Apple ne va pas aller sur le ping-pong. Apple, je trouve ça génial aussi, mais l'approche d'Apple est de dire que la réalité virtuelle ne doit pas être quelque chose qui nous enferme dans un monde dans lequel on joue.
Enfin, c'est pas que du ping-pong, ça
c'est
sera
pas
peut-être
que du
ping-pong.
Parce que là, Meta, du coup, est entre les deux, ils ont des manettes, et je pense que c'est bien d'avoir cette approche mixte. Mais il faut réussir la réalité mixte. Il faut que ce produit, on ait envie de le porter à la maison quand on fait la vaisselle, quand on se balade, quand on est seul, bien sûr, si on a deux, c'est chelou. Mais l'idée de pouvoir se balader chez soi avec ce casque sur la tête, sans avoir mal aux yeux, sans avoir l'impression d'être confus, et d'avoir ces applications qui arrivent en temps réel au milieu de sa vision.
Il y a un vrai enjeu de miniaturisation sur ces produits. C'est ça le gros problème aujourd'hui.
Absolument.
Si tu dois avoir envie de porter ce truc-là 2 heures, 4 heures par jour, voire plus si on imagine que c'est dans un contexte de travail où tu vas avoir un ordinateur, un écran projeté en face de toi. Il faut que ce soit plus petit, plus fin. Alors, on a, encore une fois, on n'a pas toutes les annonces, mais enfin, on sait à peu près à quoi va ressembler quand même le Quest 3. Et même avec tous les efforts qu'ils font pour l'instant, c'est encore trop gros. C'est encore trop gros. Moi, je me vois absolument pas
porter ça.
Y compris le Vision Pro.
J'ai essayé le Vision Pro, il est cool, il a une super qualité visuelle, mais c'est un casque VR un peu gros sur le visage.
C'est ça. Et le Quest 3 est plus fin, non? Il a l'air un peu plus fin.
Bah, ils ont la batterie.
Il y a la batterie déportée. Alors, je fais le pari d'ailleurs, les gens, quand ils nous écouteront, ils sauront déjà. Je suis sûr que Mark Zuckerberg va mettre en avant la batterie intégrée du Meta Quest 3.
Probablement, c'est clair.
Si le tech ne part pas, je comprends pas.
Mais c'est juste évident. Enfin, il y a même d'ailleurs des médecins qui se sont penchés sur ce truc-là. C'est-à-dire que tu génères des troubles musculo-squelettiques. Enfin, c'est pas anodin de porter un truc qui fait ne serait-ce que 500 grammes ou 700 grammes qui va porter sur tes vertèbres toute la journée, quoi. Pour moi, il y a un énorme enjeu de ce côté-là. Et le truc, c'est que la miniaturisation, elle va forcément prendre des années parce que les composants sont pas prêts. Zuckerberg l'a dit, hein, d'ailleurs. Il a dit oui, mais on sera prêt dans 5 à 10 ans. Il se projette loin et c'est tout à son honneur. Je trouve que c'est un projet industriel et c'est un patron d'industrie aussi, hein, Zuckerberg. Mais est-ce que dans 10 ans, on n'aura pas un peu marre de la ritournelle autour de la VR et on sera pas passé à autre chose? Ça, on n'en sait rien. Donc, c'est un peu une course contre la montre.
Tu auras tout le soft qui aura bien mûri, tu auras peut-être déjà des killer apps, tu auras déjà. Il faut voir.
Et si Apple en fait le nouveau Mac avec toutes les applications du Mac qui tournent comme ça sur un écran, ça peut d'une certaine manière en faire
truc là pendant toute la journée sur la tête, c'est pas possible, tu vois.
Je sais pas.
Mais tu sais aussi, dans leur roadmap, là, Meta, ils ont aussi, je crois que c'est 2027, des lunettes.
Oui, c'est des lunettes,
Lunettes réalité augmentée. Donc ça va être aussi ça. Je veux dire, là, quand on parlait de miniaturisation, c'est on va revenir en fait au Google Glass, hein, quasiment.
Et d'ailleurs, sur les lunettes, Qualcomm, en plus de cette puce dont je vous ai parlé, va sortir, ils vont l'annoncer, ça sera annoncé mercredi soir, donc du coup, ça sort, vous le saurez vendredi, ils vont annoncer une nouvelle puce pour la réalité augmentée. Les premiers à l'avoir, ça sera les Ray-Ban Stories 2 qui sortiront l'année prochaine, mais toutes les lunettes de réalité augmentée des marques chinoises qui peuvent utiliser des caméras pour voir le monde, afficher des hologrammes pour le GPS par exemple, elles utiliseront cette puce pour avoir une longue autonomie, tout ça. Donc on est en train petit à petit d'avancer vers cette informatique spatiale, visuelle. Ouais. La question c'est combien de temps ça va prendre et est-ce que les gens en ont envie, et franchement c'est impossible de répondre à cette question.
Et pour faire le pont avec notre discussion de la première partie, là où ces objets vont devenir aussi incroyables, c'est quand tu vas pouvoir discuter avec eux, c'est-à-dire passer les commandes. En fait, c'est l'un des problèmes des premières Google Glass et des casques de VR, c'est l'interaction que tu peux avoir avec les manettes, c'est pas toujours hyper pratique, etc. Si tu peux discuter à la voix en langage naturel et dire je veux faire ci, je veux faire ça, lance-moi tel jeu, tu vois, enfin là aussi il va y avoir une énorme valeur ajoutée, et là ça peut aussi être un truc qui fait que ça devient grand public, quoi. Parce que moi c'est ce qui m'énerve le plus, je sais pas, mais un des freins en tout cas à mon utilisation de la VR, où je l'utiliserais peut-être plus souvent si c'était pas comme ça, c'est le fait de devoir avec les manettes aller chercher dans les menus qui sont pas toujours hyper bien faits. Si tu peux y intégrer un peu d'intelligence artificielle pour fluidifier tout ça, ça peut pas mal changer la donne aussi.
On verra bien, en tout cas, s'il y a d'autres informations importantes que sur le Quest 3 qu'on aurait raté et qu'on ne peut pas commenter aujourd'hui, on y reviendra bien sûr la semaine prochaine. Un mot sur les iPhones, tiens.
Ouais.
Tu étais à Cupertino, Nico.
Tout à fait.
Tu as pu découvrir en avant-première les iPhone 15, la keynote de Tim Cook. On commence à avoir un peu de retour, hein, puisque ça fait quoi, 2 semaines maintenant que tu testes
Le mien maintenant a 2 semaines. Hein, donc
tout comme Melinda, de la rédaction Tech & Co, qui y était aussi. On commence à voir des petites failles, hein, dans ces iPhones.
Des failles qui finalement ont été identifiées très vite. Dans mon test sur Numérama qui est sorti la semaine dernière, je disais que les problèmes de chauffe du modèle précédent ne me semblaient pas du tout réglés et qu'au contraire, les bords en titane me semblaient propager la chaleur tout autour du téléphone. Ce qui, d'une certaine manière, n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Parce que si la chaleur se répartit sur les bords au lieu de se concentrer sur le dos comme auparavant, ça veut dire que le téléphone va moins laguer quand il fera chaud. Parce qu'il pourra évacuer sa chaleur plus rapidement. Le problème, c'est que entre le test et la sortie du téléphone, plein de gens se sont rendus compte de ce problème et plein de gens s'en inquiètent parce que les iPhone 15 Pro chauffent beaucoup. Et vraiment, hein, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. J'espère qu'ils vont le régler par une mise à jour logicielle. Mais j'insiste vraiment sur le fait
dans quelle situation?
dès qu'on va prendre des photos, dès qu'il fait chaud dehors aussi. La chaleur, évidemment, elle a un impact sur
alors
les
puces. C'est rigolo parce qu'il est gravé en 3 nanomètres, le 15 Pro. Je sais pas si c'est tous les 15 qui sont...
15 Pro.
Qui, en théorie, devraient moins chauffer parce que, bah, justement, la gravure est plus fine. Bah c'est l'inverse.
En fait, oui, en théorie, si Apple avait refabriqué complètement sa puce à zéro avec le 3 nanomètres, la décision qui semble avoir été prise est de faire la même puce que l'année dernière, écrite en plus petite, et de récupérer la place supérieure pour améliorer le GPU, pour améliorer le NPU. Donc en fait, c'est quasiment la même puce que l'année dernière. Donc elle souffre des mêmes défauts. Et le 3 nanomètres n'a pas été utilisé pour faire des économies d'énergie.
Et apparemment, le problème viendrait en partie justement de l'architecture interne. Ils ont fait des choix en fait, esthétiques pour que le téléphone soit plus léger, mais du coup, ça a un impact sur la dissipation thermique à l'intérieur du téléphone, qui est moins efficace que ce qu'on aurait pu espérer, et c'est ce qui explique ces problèmes de surchauffe. Alors qu'ils sont, là aussi, à prendre avec des pincettes, ils sont réels, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de témoignages, mais c'est des témoignages sur les réseaux sociaux, donc on ne sait pas exactement de manière systémique pourquoi et à quel moment ça se produit. Il y en a qui disent c'est pendant les temps de charge, il y en a qui disent moi j'ai utilisé FaceTime pendant une heure et ça s'est mis à chauffer de manière incroyable. Il y en a qui ont calculé que ça montait jusqu'à 46 degrés et que ça leur brûlait vraiment la main. Et sachant qu'on n'a pas encore eu toutes les applications et notamment les jeux vidéo extrêmement puissants, genre Resident Evil Village, etc., qui sont montrés pendant la conf.
Qui sort bientôt. Enfin,
parce que je l'ai Resident Evil Village.
Et alors, ça chauffe ou pas ?
Ça chauffe autant que quand on charge le téléphone. En fait, il y a vraiment un seuil limite. Ça chauffe pas plus, mais le téléphone est brûlant, il chauffe bien. Hein,
alors,
ça, c'est certain.
Juste sur cette partie jeux vidéo, parce que j'ai vu des témoignages agréable, aussi là-dessus, sur des mecs qui avaient testé justement avec les jeux vidéo. Ils disaient alors, ça ne chauffe pas plus. C'est vrai, ça chauffe. Simplement, il y a une dégradation de la performance graphique. Ouais. En fait, en gros, il bride la puce pour que le téléphone ne chauffe pas trop.
C'est toujours l'équation, d'ailleurs.
Eh ben, c'est ça. En fait, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que comme la température se répartit sur les côtés, il va mettre plus de temps avant d'être bridé. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle. Le truc, c'est qu'il faut qu'Apple optimise ça pour éviter de produire...
Il y aura une mise à jour, je pense.
Pour moi, il va y avoir une mise à jour. Et il faut rappeler aussi que c'est un truc, tous les ans, les gens disent que le nouvel iPhone chauffe trop, que la batterie n'est pas bonne. Et il y a un effet nouveauté, il y a un effet première configuration ou le truc surconsomme, donc il faut pas, je pense qu'on est loin de la catastrophe industrielle,
qui dit chauffe dit aussi perte d'autonomie, parce que souvent les deux sont
tellement liés, c'est plus
embêtant.
Ce qui est dommage, c'est que j'ai testé toute la gamme. L'iPhone 15 Plus, il a une autonomie de malade, il finit la journée à 50%.
Wow.
Le 15 Pro Max ou même le 14 Pro Max l'année dernière, moi il termine la journée à 10% parce qu'il chauffe, que quand il chauffe beaucoup, la courbe elle tombe vraiment plus rapidement. Il y a ce côté-là en fait de ces puces qui, c'est dommage en fait, parce que finalement on n'a pas besoin d'avoir autant de puissance et ça apporte ce type de sacrifice. Et je pense qu'Apple fait une erreur et peut-être que ce mini
c'est un peu trop une vitrine technologique en fait, les pros.
Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'Apple, pour des raisons esthétiques comme tu le disais, refuse par exemple de mettre une chambre à vapeur au dos de l'iPhone comme on a sur les Samsung haut de gamme, comme on a sur des Xiaomi haut de gamme. Et je pense qu'il est temps, finalement, on a des produits qui sont dignes d'ordinateur, et il est temps d'avoir un vrai système de refroidissement liquide au dos des iPhones, et ça serait pour le bien de ces produits, ils dureraient plus longtemps, la batterie se fatiguerait moins, et j'espère maintenant que la prochaine mise à jour, elle ne va pas trop réduire les performances tout en diminuant la température quand on est dans l'appareil photo, quand on est dans des tâches. Ça ne me choque pas que le téléphone chauffe quand on joue à Resident Evil. Ouais. Ça me choque un peu plus que le fait de zoomer ou qu'on passe un FaceTime, la puce pète un câble parce qu'elle veut optimiser la qualité. Quoi. On s'en fout.
À noter aussi que sur les 24 premières heures, c'est assez normal que le téléphone chauffe quand tu as des mises à jour qui se font.
Le
téléphone travaille en tâche de fond, tu t'en rends pas compte, mais c'est parce qu'il y a des gens aussi qui ont commencé à paniquer dès la première charge. En fait, là, il ne faut pas se stresser.
Oui, c'est absolument normal.
Mais si au bout de deux semaines,
ça chauffe encore un petit peu trop. Mais il faut reconnaître que le 14 Pro Max est un téléphone qui chauffait beaucoup aussi. Pour moi, il y a un problème avec ces puces-là. Et j'ai hâte qu'ils changent de génération pour avoir des puces qui consomment moins. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas non plus pénalisant. Et dès qu'on met une coque, on ne le sent plus du tout. Hein.
Moi, il y a un truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est que depuis quelques temps, j'ai la 5G sur mon téléphone. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que tu perds. Moi, je pense que je perds à 10 à 20% d'autonomie. Ça, c'est clair. Pour aucun gain, parce que la 5G, ça sert à rien, en fait.
Pour le particulier,
si t'as une bonne 4G, avec tes usages que tu as au quotidien, ça suffit amplement. Hein, et malgré tout, tu gagnes 10 à 20% d'autonomie en restant en 4G.
Je suis d'accord.
Et ce qui fait que le truc, c'est que j'ai coupé ma 5G. En fait, je reste en 4G.
Bah ouais, c'est terrible.
Le truc qui est fatal, c'est le
Always-on
Display.
C'est débile.
L'Always on Display, c'est tueur aussi.
Ah bah, ça tire aussi.
C'est, alors, tu peux désactiver.
Hein. Ça peut désactiver, mais j'ai vraiment fait la comparaison, notamment en vacances, au premier jour de vacances, je suis obligé de recharger à 14h. Le lendemain, je désactive le 120 Hz et je désactive l'Always on Display et double d'autonomie. Quoi.
Ouais,
mais vraiment,
incroyable.
C'est 2x2.
Non, mais c'est clair, c'est clair.
C'est vraiment assez hallucinant à quel point ces trucs peuvent consommer de la batterie.
Ouais.
Alors, t'as pas que t'as la chauffe, mais t'avais aussi, t'as eu pas mal de critiques. Je sais pas si vous avez vu sur le titane qui se raye facilement.
Oui, j'ai vu ça.
Bon, c'est.
Je suis plus partagé, moi, là-dessus.
Parce que t'avais le fameux YouTuber, là, Jerry Rig,
Riffing,
voilà,
ouais.
qui s'amuse à désosser, à détruire des iPhones à chaque fois. Et il dit, en gros, le titane, j'ai mis 10 secondes d'avoir les rayures. Quoi.
Il a mis 10 secondes en le brûlant avec un chalumeau. Enfin, je suis désolé. Moi, j'ai du mal avec le côté le YouTuber a essayé de casser un iPhone et de la casser en 10 secondes.
Non, mais c'est un exemple.
Il a essayé de le casser. Donc, là-dessus, par contre, là où il y a une deuxième polémique, c'est sur les coques.
Ça, c'est plus embêtant quand même.
Le fine woven, ils appellent ça.
C'est plus embêtant parce que les coques Apple coûtent extrêmement cher.
Ouais.
On est sur des coques à 60 euros.
Ouais.
Je ne sais pas si tu peux confirmer.
C'est ça, mais, 69 même.
Donc, vous rendez compte, une coque à 69 euros.
Bah oui, ils vendent la largette Apple à 25. Hein, donc la coque,
ah oui,
dans les chiffres de prix, on est bien. Hein.
Quand on s'appelle Apple et qu'on vend une coque à 69 euros, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà, je suis désolé, mais
en
ce moment-là, tu vas chez Amazon et tu t'achètes une... Moi, c'est ce que j'ai fait, hein, je me suis pris un truc transparent, ça m'a coûté 5 euros. Hein,
ouais, non,
avec
c'est,
la vitre
c'est
en plus.
Faut faire, hein.
Mais 69 euros, tu te retrouves avec une coque qui... Alors, avec le prétexte qu'elle est écologiquement responsable, etc., etc., en tissu, elle s'abîme à une vitesse folle. C'est ça le problème, je crois.
C'est ça. Je trouve, des gens disent qu'elle n'est absolument pas confortable à utiliser, que le matériau est mauvais. Je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que le matériau est très cool. J'aime beaucoup. Je préfère ça au cuir. Je ne suis pas un grand fan du cuir de façon générale, mais je trouve que c'est réussi. Mais il est vrai que cet aspect tissu, il faut 5 minutes avec pour comprendre que si on met des griffes dedans et qu'on veut le rayer ou qu'on le met dans l'eau, ça ne va pas survivre. Quoi.
Ne pas confier son iPhone à son chat.
Donc, elle va s'abîmer beaucoup plus vite.
Ouais, elle va s'abîmer vite. Après, il faut quand même reconnaître que les coques Apple n'ont pas la réputation de bien tenir. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'état des coques en silicone au bout de 3 mois. La plupart du temps, il y a un bouton arraché. Et pourtant, ils vendent ça à 50 euros. Donc, ils n'ont jamais eu aucun problème à vendre très cher.
Les coques en cuir sont costauds,
qualité.
Mais elles tâchent
elles
facilement.
Ouais, elles ne sont pas très belles. Ouais. Là, le risque, c'est en effet que ça vieillisse moins bien. Donc, de toute façon, moi, ma recommandation là-dessus, elle est simple. Si vous avez envie d'un truc qui dure longtemps, il ne faut pas acheter une coque à 70 euros. Il faut acheter une coque pas chère et la changer régulièrement,
la changer,
en avoir plusieurs. Par contre, si ce que vous voulez, c'est l'aspect du... Là, c'est un porte-monnaie anti-sèche fin. Si vous avez envie de cet aspect-là, de ce toucher-là, et que vous vous en foutez de l'aspect esthétique, il n'y a pas de polémique, ça vieillit. Il vaut mieux que la coque vieillisse que le téléphone.
Est-ce qu'il y a encore besoin d'une coque ? C'est la vraie question.
Parce que
Apple, leur discours, c'est aussi de dire... Alors, c'est un peu le double discours, parce qu'ils ont tout intérêt à vendre leurs accessoires, donc à vendre des coques. Mais ce qu'ils disent aussi, pour avoir discuté un peu avec certains d'entre eux, c'est que en fait, eux, tu n'as plus réellement besoin de coque, dans le sens où les écrans sont parmi les plus solides du marché maintenant, avec le céramique glace.
Mais on finit le problème.
Et le titane fait que aussi il résiste super bien. Donc,
beaucoup de gens achètent un téléphone pour le revendre, d'accord ? Et ton téléphone, si tu veux le revendre au maximum du prix, et c'est vrai que les iPhones se revendent très très bien, hein, c'est le téléphone qui se revend le mieux sur le marché, le marché d'occasion, t'as intérêt à le protéger.
T'as pas tort.
Si ton téléphone est protégé avec une coque, avec une vitre, et que tu le revends dans 2 ans, nickel, tu le vendras 100-200 euros plus cher que s'il a des rayures.
C'est vrai.
Et je pense que les gens font ça aussi, ils font attention.
Oui, c'est vrai.
T'achètes ton téléphone, tu le gardes 2 ans.
Ça coûte cher, quoi. Enfin...
Mais en même temps, je suis complètement d'accord avec cet argument, tu as tout à fait raison. Mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un gâchis. C'est-à-dire que Apple.
Ah ben c'est sûr,
d'accord.
C'est un gâchis design.
C'est un truc de fou. Ils misent tout sur le design.
Plus, toi, c'est
des appareils incroyables.
Naturel, je trouve sublime.
Mais c'est ça. Et tu vas mettre une grosse coque pour le protéger et tout. C'est toujours. Mais je comprends, j'entends très bien cet argument. Je trouve que maintenant, on arrive à un niveau. Tu vois, il y a encore 5 ou 6 ans. Je pense qu'il se cassait hyper facilement. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'amélioration, on va dire, de la solidité des matériaux, je ne dis pas que c'est parfait. Si tu le jettes contre le sol, évidemment qu'il va se fissurer, etc.
Sans coque, il va se rayer, ton téléphone. C'est obligé, parce qu'un jour, il va rencontrer des clés. C'est obligé. Enfin, tu ne peux pas... Tu projettes de le vendre...
Enfin, quel est finalement l'intérêt de faire un téléphone en titane et de vendre le titane comme le meilleur matériau du monde, classe aérospatiale.
Ouais, c'est ça.
Qu'ils ont,
Great 5.
ils ont vendu le truc en mode c'est fou. Si les gens finalement ont une coque, ils le cachent.
C'est ça.
Toi encore, t'as une coque transparente, mais pas tout le monde a une coque transparente.
Non.
Le Mars Rover, tu crois qu'il a une coque?
Mais non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est délicat.
Il est bien protégé. Bon, ben voilà, c'était top. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce De quoi je me mêle. Merci Nico.
Merci François. Toujours ravi d'être avec vous deux.
Voilà. Ouais, c'est cool.
Ça passe tellement vite quand on parle comme ça de tech tous les trois.
C'est vrai qu'on n'a pas vu l'heure passer.
Incroyable. Merci beaucoup Nico, que vous pouvez lire et retrouver en vidéo sur Numérama. Et puis merci à toi Anthony, comme chaque semaine,
merci
d'être fidèle au poste. Ce De quoi je me mêle est terminé. Le hashtag des QGMM, bien sûr, si vous voulez réagir. Et puis si vous êtes un accro à l'actutech, n'hésitez pas à nous retrouver. Alors la chronique sur BFM Business d'Anthony tous les jours, et puis moi aussi tous les jours avec Tech & Co sur BFM Business, en audio, en vidéo. Voilà, on essaie chaque jour
bientôt
de vous informer.
Bientôt
en chinois. Ça risque d'être rigolo, tiens. Portez-vous bien, bon week-end à vous toutes et à vous tous. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.